Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons tirer des leçons à partir de la vie d'un personnage nommé Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham.
Ceci en compagnie d'Alain, qui exerce un ministère pastoral dans le sud de la France.
Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de discussions sur la vie de Joseph, dont le récit se trouve dans le livre de la Genèse. Dès à présent, nous allons présenter son arrière-plan familial, et je pense que vous en tirerez la même conclusion que moi. Sa vie, tout jeune, a été très dure. Dans la première partie de cette série, c'est Alain qui va nous aider. Bonjour Alain.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Alain, dites-nous ce que la Bible nous apprend au sujet de la famille de Joseph et de son éducation. Pouvez-vous nous dire, par exemple, qui était son père?
Oui, son père était Jacob. Or, Jacob signifie « trompeur » ou plus précisément « celui qui saisit le talon ». Traduit littéralement, ce nom désigne toute personne qui en trompe une autre, en employant des astuces semblables à celles d'un lutteur qui saisit le talon de son adversaire pour le faire tomber. Or, voilà exactement ce que Jacob était. Car Jacob avait trompé son propre père Isaac comme son frère Ésaü. Il avait employé une ruse pour faire croire à son père qu'il était Ésaü, son frère. C'est suite à cette ruse qu'Isaac a donné la bénédiction à Jacob au lieu de l'accorder à son fils premier-né, Ésaü. On peut lire cette histoire dans le chapitre 27 de la Genèse.
Et qu'apprenons-nous de Joseph et de son contexte familial?
L'enfance de Joseph n'a pas été très heureuse. L'un des problèmes le plus grave peut-être est que le père de Joseph avait deux femmes. L'une s'appelait Léa, l'autre Rachel. Rachel était la mère de Joseph. Ces deux femmes étaient jalouses l'une de l'autre, ce que nous découvrirons dans le chapitre 30 de la Genèse. Jacob aimait Rachel, la sœur cadette de Léa. Son père, Laban, avait promis à Jacob qu'il pourrait l'épouser s'il travaillait pour lui pendant 7 ans. Néanmoins, au dernier moment, Laban a trompé Jacob en lui donnant Léa, sa fille aînée. Suite à cela, Jacob dut promettre à Laban de travailler encore 7 années pour lui, afin d'obtenir la main de Rachel et que la promesse initiale soit tenue. Ainsi, par ce mariage, Jacob devint bigame, comme beaucoup l'étaient à cette époque. Évidemment, ces mariages étaient loin de la situation idéale instituée par Dieu lors de la création du monde.
Et cette situation a donc dû engendrer de véritables tensions dans la famille de Jacob.
Oui, effectivement, il existait une rivalité permanente entre les deux femmes de Jacob et elles ne se parlaient guère gentiment entre elles. Jacob, il semblerait, n'a fait aucun effort pour mettre fin à leur conflit. On peut donc en conclure que la vie familiale devait être très tendue. Ceci ne pouvait qu'apporter un très mauvais exemple aux enfants de Jacob. Malheureusement, les relations difficiles entre ces deux femmes se sont répercutées plus tard dans l'attitude des fils de Jacob envers leur frère Joseph.
Alain, que savons-nous sur ces frères de Joseph?
En tout, Jacob a eu 12 fils. Joseph était l'avant-dernier. Il est né à Haran, d'où sa famille partit pour se rendre en Canaan, la terre promise par Dieu à Abraham. La famille entière arriva enfin à la ville de Sichem quand une tragédie s'y déroula.
Pouvez-vous nous dire laquelle?
Dina, la fille de Jacob, fut violée par un homme nommé Sichem. Or, Jacob, devant cette tragédie, réagit avec faiblesse.
Pourquoi dites-vous cela? Car ce qui s'est passé est épouvantable.
Eh bien, tout d'abord, il n'a rien fait. Il n'a même pas voulu se confronter à l'homme qui avait violé sa fille.
Alors, comment cette situation a-t-elle évolué?
Ayant appris ce qui s'était passé, les frères de Dina décidèrent de venger leur sœur en tuant par la ruse les hommes de la famille de Sichem. En recourant à la tromperie, ils agirent comme leur père l'avait fait dans le passé, ce qui prouve que les enfants peuvent reproduire un mauvais exemple vécu dans une famille.
Et comment le père de Joseph, donc Jacob, a-t-il réagi devant cette tuerie?
Après ce massacre, Jacob n'a pensé qu'à lui-même et au problème que ce qui venait de se passer pourrait entraîner. Il semblait plus préoccupé par ses propres intérêts que par son honneur. Les qualités morales d'un chef fort manquaient à ce père qui semblait fort indécis de temps à autre.
Merci Alain. Et que savons-nous encore du milieu familial de Joseph?
Eh bien, après cet incident, Rachel a donné naissance au frère cadet de Joseph, Benjamin. mais malheureusement, elle est morte suite à l'accouchement. Donc, Joseph a perdu très jeune sa mère et Jacob, la femme qu'il aimait tant. Ainsi, Joseph, tout jeune, fut affecté par de nombreuses tragédies.
Il est donc passé par des moments bien difficiles et tristes.
Oui, vraiment. Il faut savoir également que Jacob ne veillait pas avec sagesse sur sa famille, ni n'exerçait sur ses enfants une bonne discipline. Voilà donc les circonstances dans lesquelles Joseph a été élevé. Mais il y a encore une chose qu'il faudrait mentionner brièvement.
De quoi s'agit-il ?
La naissance de Joseph a été l'objet d'une immense joie pour Jacob, car jusqu'alors Rachel n'avait pas eu d'enfant. Avant d'avoir accouché de Joseph, elle était stérile. Or, cette réalité pesait sur elle comme un profond déshonneur, comme une honte à cause de la pression culturelle de son époque. La constante rivalité qu'elle subissait avec Léa était principalement due au fait que Léa avait eu de nombreux enfants. D'où le bonheur éprouvé par Rachel à la naissance de Joseph. De plus, Joseph est né alors que Jacob était déjà âgé. C'est pourquoi la joie de ses parents était totale.
Oui, je peux le comprendre. Et Joseph était donc l'enfant tant attendu par son père. Et il devait être, à cause de cela, couvert d'affection.
Oui, bien sûr. Parce que Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Il le favorisait plus que tout autre. Mais en aimant Joseph de la sorte, Jacob n'agissait pas avec sagesse car il aggravait le ressentiment dans le cœur de ses autres fils envers Joseph. Ainsi, nous pouvons dire que Joseph n'a pas grandi dans un contexte familial épanouissant.
Parlez-nous maintenant de ce que Dieu pense d'une telle situation.
Dieu n'approuvait pas les erreurs du père de Joseph, ni celles de ses frères. Pourtant, parce que Dieu est bon, il a, dans ce contexte imparfait, fait naître le bien.
Pourquoi dites-vous cela ?
Parce qu'il faut se souvenir que Dieu avait fait des promesses à l'arrière-grand-père de Joseph, Abraham. Il lui a révélé sa volonté de faire de ses descendants une nation puissante connue sous le nom d'Israël. Il a également promis que l'un de ses descendants serait porteur de bénédiction pour toutes les nations de la terre.
Et quel est le rapport avec la vie de Joseph ?
Parce que Dieu est souverain. Ce qu'il avait promis à Abraham, l'arrière-grand-père de Joseph, allait pourtant s'accomplir. Mais pour réaliser ses grands desseins, Dieu avait besoin de faire naître un peuple. Il devait aussi protéger et garder ce peuple. Et malgré tout ce que nous avons appris sur Joseph et sa famille, dont l'avenir d'un point de vue humain ne présageait rien de brillant, nous allons voir Dieu à l'œuvre dans toutes les étapes de la vie de Joseph. Il vivra des moments difficiles, mais Dieu réalisera les grands desseins qu'il avait promis d'accomplir à travers cette famille. Et la vie de Joseph constitue donc un maillon très important dans la chaîne qui allait mener finalement à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Car à travers Joseph, Dieu gardera sa famille entière, y compris son frère Judas. Or, c'est à partir de la lignée de Judas que naîtra le Seigneur Jésus, le Sauveur des hommes.
Il est très rassurant de voir le Seigneur à l'œuvre dans la vie de Joseph. Car malgré son contexte familial difficile, le Seigneur va agir en lui et en faveur de sa famille entière.
Oui, en effet, c'est très rassurant. Nous aurions pu penser que Dieu n'était pas à l'œuvre dans la vie de Joseph et douter de ce qu'il allait accomplir de grandes choses dans sa vie. Nous allons aussi découvrir que Joseph allait rencontrer de plus grandes épreuves encore. Toutefois, Dieu, le souverain, va agir à travers lui. Le Seigneur est puissant pour réaliser ses desseins, et à travers chaque moment difficile de la vie de Joseph, dans chaque crise, dans chaque épreuve, il était là.
Et que nous apprend l'expérience de Joseph ?
Elle nous apprend une leçon très précieuse. Le Seigneur est le maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Voilà ce que nous allons découvrir peu à peu en examinant la vie de Joseph ensemble.
Merci Alain. À tous ceux qui, comme Joseph, connaissent un mauvais départ dans la vie, il est rassurant de savoir que l'Éternel est fidèle et empli d'amour pour les hommes. Même si votre passé est chargé d'épreuves, vous pouvez placer votre confiance en l'Éternel. Alors vous recevrez son secours et vous connaîtrez sa présence constante dans vos vies. Dieu est également celui qui peut changer le mal en bien et vous préparer un avenir meilleur.
Jean-Marc va maintenant poursuivre ses méditations bibliques sur les paroles de Jésus appelées les Béatitudes. Il commence avec la lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8.
Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Avant de revenir sur le verset que nous venons d'entendre, je voudrais parler de Moïse. Moïse est celui que Dieu avait choisi pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et pour le conduire sur la terre promise en Canaan. Un jour, Moïse est monté sur une montagne afin de prier. Il demanda à Dieu « Permets-moi de contempler ta gloire ». Et l'Éternel lui répondit « Tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Pourquoi est-il impossible pour un homme, même un homme connu pour faire le bien comme Moïse, de voir Dieu ?» Selon les paroles de Jésus, pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Nous pouvons en déduire donc que ce qui nous empêche de voir Dieu est le fait d'avoir un cœur impur. Je vous demande, chers amis, ce qui arrive quand une source d'eau propre et pure entre en contact avec une source d'eau polluée. Vous savez sans doute que c'est l'eau propre qui devient sale et non le contraire. Une source polluée ne deviendrait jamais pure au contact d'une eau potable. Tout comme une source pure doit être protégée de toute contamination, Dieu, celui qui est pur et parfait, ne peut être en contact direct avec ce qui est impur. Admettons donc que nous ne pouvons pas voir Dieu parce que nous avons un cœur impur. Il est alors pertinent de se demander ce qu'est un cœur impur. Quand la Bible parle du cœur de l'homme, elle désigne surtout ses pensées, ses sentiments et ses motivations. Dire que nous avons un cœur impur signifie qu'il nous arrive d'avoir de mauvaises pensées, de mauvais sentiments et de mauvaises motivations. En voici quelques exemples. La haine, la jalousie et la convoitise. Dire que Dieu est pur signifie que le mal ne trouve aucune place en lui, car tout ce que Dieu fait est motivé par la justice et l'amour. Une source d'eau, polluée par des déchets chimiques ou infectée par des microbes, causera des problèmes de santé à ceux qui en boivent. De la même manière, nos cœurs impurs nous poussent à pratiquer le mal, engendrant le malheur dans nos vies et dans celles de nos proches. Et pire encore, comme nous l'avons déjà évoqué, l'impureté de nos cœurs nous prive du privilège de voir Dieu et d'entretenir une relation avec lui. Pourtant, Jésus l'affirme, « Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. » Il peut donc être possible d'avoir un cœur pur. Il peut être possible de voir Dieu. Ainsi, la mauvaise nouvelle est suivie par une bonne. D'une part, nous avons tous un cœur impur. Mais d'autre part, Jésus annonce qu'il est possible que nos cœurs soient purifiés. Comment ? La prochaine fois, je répondrai à cette question.
Pour en savoir plus et connaître la suite de l'histoire de Joseph, nous vous invitons à nous retrouver lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.